France Culture.
Le journal est présenté ce midi par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est une première en plus de 3 ans de conflit. L'armée russe attaque la région ukrainienne de Dnipropetrovsk dans le centre-est du pays. Une avancée des troupes russes très stratégique en pleine négociation pour une résolution du conflit. L'émotion en Colombie, après ce que le gouvernement colombien qualifie d'attentat. Le candidat à la présidentielle Miguel Uribe a été grièvement blessé par balle hier soir en plein meeting. Comment décarboner le transport maritime? Entrepreneurs et investisseurs mettent sur la table leurs propositions au forum sur l'économie bleue à Monaco et préviennent, cela coûtera cher. Goûter des plats inédits et insérer les réfugiés par la gastronomie. Ambition du festival culinaire Refugee Food qui débute aujourd'hui. Sa cofondatrice Marine Mandrila est l'invitée du journal de 12h30. Un nouveau revers pour l'armée ukrainienne et une avancée majeure pour l'armée russe. Cette dernière a annoncé une offensive sur la région de Dnipropetrovsk dans le centre-est du pays, région bordant celle de Donetsk. C'est une première en plus de 3 ans de conflit et qui intervient en pleine discussion diplomatique poussée par les États-Unis pour un règlement du conflit. Jean-Didier Rouvron.
Selon la défense russe, les unités de la 90e division blindée ont atteint la frontière ouest de la région de Donetsk. Mais loin de s'arrêter à la limite du territoire annexé à la Fédération de Russie en 2022, les forces russes poursuivent leur effort de guerre dans la région ukrainienne frontalière de Dnipropetrovsk. Une bombe guidée y a fait un mort dans la localité de Mejivska, alors que les autorités locales ont fait état d'attaques combinées sur la zone de Nikopol au moyen de drones, d'artillerie et de systèmes de lance-roquettes multiples Grad. Moscou n'a pas communiqué ses objectifs, mais on peut raisonnablement penser que cette conquête territoriale doit permettre de repousser les forces ukrainiennes et réduire ainsi les attaques qui touchent quotidiennement la région de Donetsk. Il pourrait aussi s'agir du début de l'installation d'une zone tampon entre l'Ukraine et les territoires que Moscou considère comme russes. Au moment où Moscou et Kiev ont repris des négociations directes, de nouveaux gains territoriaux sont tout à l'avantage du Kremlin pour se positionner en force face aux Ukrainiens. Moscou, Jean-Didier Revoin.
Pour France Culture, Jean-Didier Revoin, nous correspondons de France Culture à Moscou. La garde nationale déployée dans les rues de plusieurs villes californiennes aux États-Unis. La Maison-Blanche a annoncé hier l'envoi de 2000 membres de cette force militaire de réserve face à des manifestants anti-expulsion qui protestent depuis 2 jours contre les arrestations en masse menées par des officiers fédéraux de l'immigration. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, parle d'une décision volontairement incendiaire. Le dernier déploiement de la garde nationale en Californie remonte à 2020 lors des émeutes provoquées par la mort de George Floyd. Un prétendant à la présidentielle colombienne blessé par balle en plein meeting. Cela s'est passé hier soir à Bogota. Le sénateur conservateur Miguel Uribe était en train de prononcer un discours lorsqu'il a été la cible de coups de feu. Et Najat Benrabah, le candidat de droite, est toujours dans un état critique malgré une première intervention chirurgicale. Najat Benrabah, que nous retrouverons un peu plus tard dans ce journal. 436, c'est le nombre de faits antisémites enregistrés au premier trimestre 2025. Annonce faite par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Mathias Hoth, ce matin, qui déplore un chiffre extrêmement élevé dans la continuité des 2 années passées. Bonjour Sophia Berada.
Bonjour.
Les actes antisémites représenteraient les actes antireligieux les plus fréquents.
Oui, selon le ministre, 2 faits antireligieux sur 3 cibles la religion juive, avec une prédominance des atteintes aux personnes, des propos ou des gestes menaçants le plus souvent. Mais il y a aussi une hausse de la violence physique. L'exemple le plus récent est l'agression à coups de chaise d'un rabbin qui était attablé à un café. C'était avant-hier à Neuilly-sur-Seine. Sur l'ensemble de l'année 2024, on le rappelle, il y a eu 1570 actes antisémites en France. Par exemple, l'attentat contre la synagogue de la Grande Motte ou encore l'incendie de la synagogue de Rouen. En 2022, il y en a eu 4 fois moins. Mais cette hausse de l'antisémitisme s'inscrit dans un contexte d'augmentation globale des infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, plus 11% entre 2023 et 2024. Le délégué interministériel Mathias Hoth y voit 2 causes.
La première, évidemment, mais elle remonte à loin, elle est évidemment à caractère politique, c'est le rôle de l'extrême droite dans ce domaine qui, depuis les années 80, est effectivement alimenté d'une certaine manière aujourd'hui cette désinhibition de la parole raciste. Et le deuxième facteur qui est très important, c'est quand même le développement des réseaux sociaux avec ce sentiment d'impunité, ce pseudo-anonymat, comme on le dit, sur les réseaux sociaux, qui fait que désormais, on a le sentiment qu'on peut dire tout et n'importe quoi.
Il rappelle que les propos racistes et antisémites constituent un délit et lorsqu'ils sont proférés sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire l'objet d'un signalement sur la plateforme Pharos.
Sophia Berada pour France Culture. Et c'est bien contre le racisme et pour rendre hommage à Hichem Mirawi, quadragénaire tunisien tué la semaine dernière à Pugey-sur-Argens dans le Var, que deux marches blanches sont organisées aujourd'hui. L'une à Marseille ce matin, l'autre à Pugey-sur-Argens cet après-midi. Le suspect, un homme de 53 ans, voisin de la victime, a été mis en examen jeudi pour assassinat en raison de l'origine. Il représente 3% des gaz à effet de serre. Le transport maritime est pourtant en pleine expansion, avec une hausse de 2% des émissions l'année dernière. Voilà pourquoi la décarbonation du transport maritime figure au cœur des 10 recommandations émises cette semaine par près de 2000 scientifiques du monde entier, avant l'ouverture de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, demain à Nice. Et cette problématique de la décarbonation du transport maritime fait l'objet de discussions à Monaco ce week-end au forum sur les économie et la finance bleue, où vous vous trouvez. Catherine Pétillon, bonjour. Bonjour Catherine Pétillon. Catherine Pétillon, en direct de Monaco, que l'on retrouvera là encore.
Est-ce que vous nous entendez?
Nous vous entendons, Catherine Pétillon. Alors Catherine, pour financer cette décarbonation du transport maritime, eh bien, il va falloir des sommes importantes.
Oui, parce qu'il faut à la fois des carburants plus propres, des ports avec des infrastructures pour les distribuer, des chantiers pour construire de nouveaux bateaux. En somme, la marche est haute. Les nouvelles réglementations pourraient accélérer le processus. En avril, l'Organisation maritime internationale a fixé au niveau mondial une trajectoire de décarbonation d'ici 2050 et des taxes économiques pour y arriver, détaille Fanny Pointé de l'ONG Transport et Environnement.
On va devoir payer pour chaque tonne de carbone émise dans le monde quand on a un navire qui utilise des énergies fossiles. Pour nous, en tant qu'ONG, c'est une première étape. Il faut le saluer, d'avoir un système contraignant, mais ce n'est pas suffisant pour être sur une trajectoire complète de décarbonation. Et ce n'est pas suffisant aussi pour financer les technologies de décarbonation qui aujourd'hui coûtent extrêmement cher. Quand on parle des carburants les plus durables, c'est 3 à 4 fois plus cher que les carburants fossiles.
Au niveau national, justement, la France va investir 90 millions d'euros dans la décarbonation du maritime, annonce fin mai du Premier ministre. Alors cet argent, c'est une partie des recettes du marché carbone européen. Les sommes que va récupérer le secteur devront ensuite être réparties entre les ports, les chantiers navals et les armateurs. Laurent Martin, c'est le représentant des armateurs de France.
Le transport est tellement divers et tellement varié, on va devoir avoir sur nos bateaux l'ensemble des solutions possibles selon le type de votre bateau, selon le type de vos trajets. Donc on aura de l'hydrogène, de l'électrique, du vélique, des e-fuel. Donc on aura besoin d'absolument toutes les technologies parce que le transport est tellement divers et tellement varié. Ça va se faire entreprise par entreprise, bateau par bateau, de savoir quel est le meilleur mix technologique et économique pour pouvoir aller vers le zéro carbone.
Mais globalement, la décarbonation, Julie, dépendra beaucoup de la disponibilité et des prix de nouveaux carburants propres.
Catherine Pétillon en direct de Monaco avec Jérémy Thuil, moyen technique. Emmanuel Macron qui s'apprête donc à clore ce forum sur l'économie bleue avant de rejoindre Nice en bateau lors d'une grande parade maritime pour célébrer la journée mondiale de l'océan. Emmanuel Macron, qui dans la presse quotidienne régionale fustige les incertitudes créées par son gouvernement sur l'écologie et en particulier sur la suspension de MaPrimeRénov', ces aides de l'État pour la rénovation énergétique des logements, dont la suspension a été annoncée cet été face à un trop grand nombre de demandes de subventions. Eh bien, le guichet rouvrira au plus tard à la fin du mois de septembre, annonce ce midi le ministre de l'Économie, Éric Lombard, sur France Inter. C'est une association dont l'ambition est d'insérer des réfugiés par la restauration. Refugee Food fait son festival à partir d'aujourd'hui et c'est jusqu'au 29 juin. Des rencontres culinaires et culturelles sont prévues dans une douzaine de villes de France. Festival qui fête cette année ses 10 ans. Alors pour en parler, la cofondatrice de Refugee Food est avec nous. Bonjour Marine Mangela.
Bonjour.
Alors en quoi consiste exactement ce festival ?
Ce festival, c'est un festival culinaire et solidaire qui consiste à créer des collaborations en cuisine entre des cuisiniers réfugiés venus d'ailleurs de plein de pays et des restaurateurs locaux qui vont ensemble créer un menu à quatre mains dans l'objectif de un, de faire découvrir des patrimoines et des cultures venues d'ailleurs, qui contribuent à enrichir nos sociétés et nos assiettes. Et puis, voilà, expliquer et raconter aussi un autre récit, une autre réalité des personnes exilées, des personnes réfugiées. Et voilà, et travailler aussi autour du vivre ensemble qui peut nous manquer aussi en ce moment.
Alors, au-delà de cet événement, de ce festival, un Refugee Food se présente aujourd'hui comme un projet global avec une entreprise d'insertion qui compte 70 salariés, plus de 500 bénévoles. Alors, comment est né ce projet?
Ce projet, il est né en réaction à la crise syrienne, à la crise migratoire de 2015. Mmh. Et on a souhaité, avec Louis Martin, cofondateur avec moi, s'engager pour l'accueil et l'insertion des personnes réfugiées en France. On revenait d'un tour du monde culinaire et on savait que on avait cette conscience que la cuisine, parce que c'est l'une des choses qui se partage le plus au monde, qui se partage le plus facilement, était un outil et un levier pour rassembler les gens, pour montrer une autre réalité, pour briser les stéréotypes aussi autour des migrations, et aussi un levier d'inclusion et d'insertion professionnelle. Il y a plus de 200 000 postes vacants dans la restauration, ce sont des métiers accessibles. Et donc, effectivement, on travaille aussi autour de formation. On est une école intégrée où on forme des personnes réfugiées au métier de commis de cuisine. Et on est aussi une entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on forme ces personnes par le faire en cuisine, avec des cours de français, un accompagnement social, dans l'objectif qu'ils puissent s'émanciper, entre guillemets, s'épanouir. On pense vraiment que le travail, l'accès à l'emploi fait partie des conditions d'épanouissement dans un pays d'accueil.
Et comment vous arrivez à financer tout cela, même l'organisme de formation?
On a un triple financement public, de subventions publiques, de financement privé, notamment de fondations d'entreprises, et d'autofinancement, qui comprend aussi des dons de particuliers. Et on est un modèle hybride issu de l'économie sociale et solidaire, dans le sens où l'entreprise d'insertion appartient à 100% à l'association, ce qui nous permet d'autofinancer une partie de nos actions.
Alors 300 réfugiés, en tout cas c'est ce que j'ai lu, 300 réfugiés ont été formés via votre organisme de formation depuis 2019. Est-ce que cela leur a permis de régulariser leur situation?
Alors les personnes avec qui on travaille sont réfugiées statutaires, c'est-à-dire qu'elles ont obtenu l'asile en France, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen français, hormis le droit de vote. Donc les personnes avec qui on travaille et qu'on accompagne dans l'insertion professionnelle ont déjà une situation régulière. Et nous, on intervient vraiment pour leur permettre de s'épanouir en France, de trouver leur place, notamment par le travail, par l'accès au travail.
Alors, vous étiez opposé l'année dernière à la loi asile-immigration qui a été promulguée en janvier 2024. Vous étiez opposé au sein du collectif En Cuisine contre la loi raciste. Le secteur de l'hôtellerie-restauration est plus que jamais en tension. Hein, vous l'avez dit, il y a au moins 200 000 emplois vacants. Or, selon l'INSEE, 50% des emplois dans la restauration en Ile-de-France sont pourvus par des personnes immigrées. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous êtes satisfaite de la nouvelle liste des métiers en tension dans chaque région qui a été publiée il y a 2 semaines?
Alors c'est vrai que ça faisait très longtemps, si je dis pas de bêtises, cette liste n'avait pas été mise à jour depuis 2008.
Oui, tout à fait.
Ce qui était un grand étonnement de la part du secteur. Donc effectivement, on est satisfait que la restauration soit inscrite dans la liste des métiers en tension. Une fois qu'on a dit ça, voilà, les conditions de régularisation par le travail en France sont complexes. Donc voilà, ce n'est pas non plus une solution miracle.
Ce n'est pas une solution miracle, d'autant plus qu'en région Île-de-France, la liste de métiers en tension n'intègre que 2 métiers, employés d'hôtellerie et cuisiniers, ce que vous déplorez?
Oui, tout à fait. Après, effectivement, dans la cuisine, ce sont des métiers qui ont toujours accueilli. Ce sont des métiers qui ne nous ont pas attendus pour faire appel à une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de reconnaître le droit de ces travailleurs et de leur permettre d'avoir aussi des conditions de travail qui soient dignes, ce qui est aussi un vrai sujet dans le secteur de la restauration. Il y a une actualité en ce moment, notamment avec la sortie du livre de Nora Bouazouni, « Violence en cuisine, une omerta à la française ». Et c'est vrai qu'on est aussi engagé pour l'amélioration des conditions de travail dans le milieu de la restauration.
Merci beaucoup Marine Mandrila. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Refugee Food, dont le festival se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 juin dans une douzaine de villes du pays.
Et vous pouvez retrouver sur le site internet toute la programmation.
Parfait, merci encore. Merci. Un mot de météo avec quelques averses, encore attention hein, sur le Grand Est cet après-midi. Mais partout ailleurs, eh bien, les éclaircies devraient s'imposer particulièrement sur les régions méditerranéennes. L'atmosphère reste un peu fraîche pour la saison sur la moitié nord avec 16 à 22 degrés attendus. 22 à 25 degrés sur le sud-ouest, 24 à 30 degrés près de la Grande Bleue.